Mon travail, le cœur de ma problématique, porte sur la mobilité sociale dans les sociétés d'Ancien Régime, en Espagne plus précisément, et sur les enjeux que pose ce phénomène dans ces mêmes sociétés. Je l'ai dit, le fil conducteur de ma thèse, c'est la trajectoire d'un juriste, un letrado, Rodrigo Rolado, qui est né en 1584, on va revenir un petit peu sur sa biographie, en Andalousie, et qui est mort à Madrid en 1650. Le cadre chronologique excédant ses bornes, puisque je me suis pour cela intéressé à ses ascendants et puis au devenir de ses enfants. Alors, cet homme, je l'ai rencontré par hasard. J'aurais bien aimé le rencontrer. C'est un homme qui est resté pendant toute ma thèse sans visage. J'ai jamais retrouvé d'iconographie le représentant. Aucun portrait de lui n'est connu. Et c'est sans doute parce qu'il n'avait pas non plus retenu l'attention de l'historiographie. On en trouve très très peu de mentions. On compte sur les doigts d'une main les références à ce puissant, pourtant procureur de Philippe IV. Procureur donc fiscal du roi. À peine son nom est-il évoqué lorsque l'on mentionne un épisode resté semi-célèbre en 1643, évidemment, c'est pas cet épisode dont il s'agit, lui est célèbre, disgrâce d'Olivares au début de l'année, et dans le sillage de sa disgrâce, une partie de la noblesse, notamment une partie des élites, des oligarchies municipales, réclame la purge de son administration. On réclame la purge de son administration, en partie l'administration financière, qui est accusée de tous les torts, et a lieu, c'est ce que explique notamment un certain nombre d'historiens, Carmen Sanz, spécialiste des finances, même dans John Eliot, dans sa biographie d'Olivares, on procède à une purge dans la foulée. Alors c'est pour contenter effectivement ces hommes. Donc officiellement, il s'agit de satisfaire les détracteurs du ministériat qui réclament la purge des officiers. J'aborderai pas cet angle dans cette présentation. En fait, je me suis rendu compte que ça correspondait beaucoup plus à un règlement de compte inter-faction de Olivares, ceux qui restaient d'inimitié qui débouche sur deux condamnations majeures, sur celle de ce personnage, Rolado, et puis sur Pedro Valle de la Cerda, qui est connu pour être le fils du célèbre arbitriste dont s'est occupé Anne Dubé dans sa thèse. Alors tout part de là, tout part en fait d'une découverte archivistique. C'est-à-dire que j'ai dans ma méthodologie, en fait, j'ai dérogé un peu aux règles, c'est-à-dire j'ai pas posé une problématique, un sujet que je suis allé vérifier dans les dépôts d'archives. J'ai fait une trouvaille. En l'occurrence, je dois reconnaître que c'est mon directeur de thèse qui l'avait faite. Puis il avait pas le temps de s'occuper de tout ça. Donc gentiment, il m'a donné quoi ? Il m'a donné une correspondance, celle de Rolado et de son frère. Entre 1124 et 1643, donc presque 20 ans, un peu moins de 100 lettres, ce qui est exceptionnel pour l'époque, parce que des lettres, au départ de roturiers, qui dévoilent l'intimité de la famille, les stratégies familiales, et le plus intéressant, c'est que, en principe, l'historien reconstruit a posteriori les stratégies d'un personnage. Là, j'ai pas eu besoin de faire ça. Alors, je l'ai fait dans d'autres contextes, mais j'avais, si vous voulez, les stratégies livrées carte sur table. Elles m'étaient données par ce Rolado qui expliquait comment faire pour s'enrichir aux fins de fonder une maison aristocratique. Il part de pas grand-chose, on va voir, mais il part pas de rien. Alors, l'importance masse documentaire, alors je reviendrai un tout petit peu dessus sur mes sources, notamment partant des pièces de ce procès, pourquoi cette correspondance se retrouve dans mes mains, parce que, à l'occasion de cette visite qui a lieu, visita de la Hacienda, entre 1643 et 1649, on procède à des confiscations lourdes dans la famille de Rolado, à Madrid, où ont lieu les premières perquisitions, et puis dans toutes les villes où Rolado a ses intérêts, notamment familiaux. Le juge délègue des officiers pour se rendre en Andalousie, je vais revenir sur la ville précise, et confisque au domicile du frère, du petit frère de Rolado, confisque sa correspondance comme preuve, c'est les pièces à conviction qu'il va faire remonter ensuite à Madrid. Alors, je vais revenir un tout petit peu sur sa trajectoire. Alors, quelques repères biographiques. C'est un Andalou, un roturier au départ. Il naît à Andújar, enfin, il naît à Villanueva de Andújar, le haut Guadalquivir, l'Andalousie du Nord, une terre qui est très fertile, agricole, terrain agricole qui borde énormément de sédiments, limons, le long de cette faille du Guadalquivir. Il naît, en 1584, dans cette région. Alors, comme beaucoup de familles, hein, les ascendants de Jurado font preuve d'une très solide endogamie géographique. Alors, j'ai reconstitué assez précisément ses ascendances, ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. En me trouvant dans les archives provinciales à Jaén, j'ai collecté presque 1000 actes notariés sur une famille qui était au départ inconnue. Hein. Ça m'a permis de mettre ça en regard avec les autres sources dont je disposais. Alors, il s'éteint dans sa demeure madrilène le 29 décembre 1650, à 66 ans, donc une vie longue. Hein. Cette bourgade agricole, j'ai dit, a bénéficié d'un beau XVIe siècle. Les ancêtres de Jurado ne sont pas, j'ai dit qu'ils étaient inconnus, mais ils ne sont pas, lui n'est pas né de rien. Ce sont des bons propriétaires terriens, ce que on appelle des laboureurs, hein, des bons laboureurs, qui se distinguent par leur niveau d'aisance. Ils sont propriétaires terriens avant l'heure d'oliviers. Alors d'oliviers, quand je parle de Jaén et que je prononce le mot olivier aujourd'hui, ça me fait penser à quand on se déplace dans cette région, à la mer d'oliviers, monoculture et production oléicole qui est la plus importante en Europe, hein, qui toute la lutte d'olive vient d'ici. À l'époque, on n'est pas du tout dans cette situation. Ça débutera à la fin du XVIIIe siècle. C'est une culture qui se développe à la fin du XVIIIe siècle. Mais ils sont en ce sens précurseurs dans cette région. Ils ont de nombreuses terres, mais prédomine une polyculture propre aux sociétés d'Ancien Régime. Alors, père et grand-père paternel et maternel du procureur de Jurado payent les servicios, hein, ce sont des pecheros, des roturiers, et jamais ils ne contestent leur inscription dans les registres fiscaux. En tout cas, je n'ai pas trouvé mention. Ils sont riches, enfin moyennement riches, mais ils sont exclus du corps de ville. Aucune charge dans... Alors, c'est une petite bourgade, hein, Villanueva de Andújar, de Milan, mais pourtant, pas de régidor, pas d'alguaciles dans la famille. La seule marque distinctive, qui n'est pas quand même des moindres, le père de Jurado, qui sait bien écrire, est familier de l'Inquisition. Évidemment, outre l'honneur que la charge confère à un niveau local, elle vient certifier l'ascendance, en tout cas, vieille chrétienne de la famille. Jurado est un homme doublement nouveau. Pourquoi un homme doublement nouveau? Parce que d'abord, il conquiert de haute lutte sa noblesse à l'issue d'un très long procès qui dure presque 8 ans, instruit entre 1626 et 1637. Et sa noblesse, je reviendrai sur les difficultés qu'il a à la prouver. Cette noblesse est confirmée ensuite par l'acquisition de 5 habits des ordres militaires entre 1636 et 1644. Pour lui, pour ses enfants, pour ses beaux-fils. Doublement nouveau également parce qu'il accède donc noblesse, anoblissement, et puis il accède au statut de letrado, avec une très belle carrière accomplie sous le ministériat d'Olivares. Il consomme l'héritage paternel dans ses études, c'est expliqué comme tel par son frère, donc il a décidé de dépenser son héritage dans ses études. Après un rapide passage par un collège jésuite, peut-être qu'on pourra revenir dessus, à Baeza, j'aurais dû indiquer Baeza qui se trouve... Vous connaissez sans doute cette très belle ville d'Andalousie. Il s'installe à Baeza pour y suivre le début de ses études universitaires. Et puis, comme c'est un centre d'enseignement quand même relativement modeste, il se dirige ensuite à Séville pour finir ses études dans le collège Santa Maria de Jesus, il y est à partir de 1609. Il devient docteur en droit civil, il est conseiller pendant un temps, et c'est important parce qu'on va voir qu'il va avoir toujours une implication dans des charges financières, un peu, en tout cas dans un environnement financier, conseiller juridique du fournisseur général des flottes et des armées des Indes, hein, alors c'est les titres aussi en espagnol sont à rallonge. Il officie dans la juridiction portuaire de Séville. Et on pourrait penser, à cette époque, je me suis demandé dans ma recherche si il avait eu un destin américain, puisque à Séville, dans l'université en question, presque la moitié des étudiants font carrière de l'autre côté de l'Atlantique en trouvant avec des charges américaines. En fait, pas du tout. Il reste près de Madrid pour rester, en tout cas, près du roi et près des offices les plus lucratifs. En 1617, il s'installe à Madrid. Il se marie à Isabel de Orozco, qui est une fille de la petite noblesse et la fille du receveur général des Cortés. Alors, receveur général des Cortés, c'est-à-dire que le père de cette dame est trésorier dans l'assemblée représentative des corps, hein, les Cortés de Madrid, de Castille, et donc il a une charge financière. Donc il s'approche de cette famille, et puis il hérite, alors pas un jeu que j'ai expliqué dans ma thèse, mais sur lequel je pense que je ne reviendrai pas, il hérite de cette charge aux dépens des propres fils de Francisco de Orozco, le receveur des Cortés. Commence alors une carrière qui va le mener 10 ans dans cette assemblée. Donc pendant 10 ans, il s'habitue au maniement des comptes. C'est un juriste, hein, en droit civil, mais qui a une maîtrise des techniques financières, maîtrise en comptabilité pour l'époque de la partie double. Il s'est commissionné au bon endroit des officiers pour l'aider à recouvrer les créances. Alors on va voir que c'est l'importance dans une monarchie au XVIIe siècle, dont on connaît les marasmes, la crise financière, et savoir comment recouvrer ses créances et ses dettes, ça permet à un homme nouveau de s'enrichir. Donc bien introduit dans les pouvoirs, dans les réseaux de pouvoir madrilènes, et inséré dans le cercle en fait périphérique d'Olivares, il devient le 5 juillet 1634 procureur des millions, c'est-à-dire fiscal des millones. C'est le procureur qui est chargé d'instruire les procès sur cet impôt-là. Alors on sait que l'impôt des millions, alors évidemment c'est pour les non-historiens c'est pas forcément très très connu, l'impôt des millions devient le premier impôt du royaume. Il va détrôner l'autre impôt phare, hein, les alcavalas, et en fait cet homme est à la tête, en tout cas un pouvoir, ce que j'essaie de me démontrer dans ma thèse, sur tous les contrôleurs, tous les trésoriers des millionnaires de Castille, qui sont principalement des Portugais, entrés récemment au service du roi, et leur nouveauté à eux aussi va profiter à Rulado, je reviendrai dessus. Il donne entière satisfaction au roi, ce qui lui vaut une promotion. En 1538, il devient procureur du Conseil des Finances. Juan Bautista Laria, qui est connu pour ses allégations fiscales, juridiques, et c'est un homme, un lettré, hein. Mais Rulado, lui, est un homme pragmatique. Il ne n'écrit pas de traités juridiques, traités politiques. Là encore, je reviendrai dessus. Donc, il devient le magistrat en charge, le fiscal de Hacienda. Le fiscal de Hacienda, c'est le procureur en charge de la conservation des intérêts du roi dans le domaine fiscal et financier. Un cursus professionnel, somme toute, qui est assez classique, hein. Ça correspond à ce qu'on connaît des cursus professionnels. Rodrigo Rulado exerce des offices donc liés à ce que l'historien Daniel Dessert appelle pour la France du second XVIIe siècle le système fisco-financier. Système fisco-financier, il tire parti des opportunités offertes par ses positions pour construire, on va le voir tout de suite, une immense fortune. Cependant, en 1643, à la suite de la disgrâce d'Olivares, hein, sur laquelle je m'étendais tout à l'heure, ses collusions avec les milieux financiers sont révélées lors de cette visite du Conseil. Et donc, le but, je l'ai dit, hein, est de faire rendre gorge aux officiers malhonnêtes. Sentence très lourde et privation de tous ses offices. C'est-à-dire que c'est un homme extrêmement riche, qui s'était accompli et qui perd du jour au lendemain à peu près tout, sa famille aussi. Déclassement très rapide de la famille, On va voir, c'est intéressant parce que j'ai à la fois une ascension fulgurante et puis aussi en contrepoint le déclassement et stabilisation du lignage. Alors ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que ils ont dû se confronter à ces difficultés, mais que l'essentiel a été sauvé, parce que l'essentiel, c'est pas d'être riche, hein, c'est l'essentiel, c'est d'être considéré comme noble, et je vais m'étendre sur cette question. Alors, trois facteurs expliquent mon choix d'une étude sur la mobilité sociale. On sait évidemment que l'expression est anachronique. La première fois qu'on utilise cette expression, c'est un sociologue américain en 1927. Mais je choisis de l'utiliser pour les sociétés anciennes, hein, parce que je pense qu'elle peut parfaitement s'appliquer, parce que les contemporains ne sont pas dénués de mots, de concepts, pour décrire des changements de position sociale. Alors, qu'est-ce que j'entends par s'élever sous l'Ancien Régime ? Évidemment, s'élever sous l'Ancien Régime, c'est d'abord accéder à un statut supérieur, hein, dans une société qui est intrinsèquement inégalitaire. Donc, le clergé, et plus encore la noblesse, parce que la noblesse jouit des attributs symboliques, honorifiques, de transmission aussi, supérieurs au clergé à cette époque. Plus généralement, j'entends par cette expression quatre choses. Hein. Qu'est-ce que c'est que la mobilité sociale au XVIIe siècle pour moi ? C'est l'accroissement ou la diminution d'au moins un de ces quatre éléments chez une personne, une famille ou un groupe. Alors quels sont-ils ? L'honneur, la réputation, le pouvoir et l'argent. C'est ce que j'ai. Voilà, c'est ma propre définition, hein, qui peut être discutée d'ailleurs. Alors. Trois facteurs expliquent mon choix de cette étude sur la mobilité sociale. D'abord, premier facteur, l'ampleur de l'enrichissement. Au XVIIe siècle, une poignée de familles, c'est une centaine de familles tout au plus, peuvent se targuer d'afficher des revenus aussi importants. Rolando multiplie l'héritage que lui avait transmis son père. Alors j'ai eu de la chance que j'ai retrouvé quasiment tous les testaments de la fratrie, de la famille. J'ai pu faire manier un peu des chiffres. Hein. Il multiplie l'héritage que lui avait transmis son père par 150, ce qui est vraiment une somme extraordinaire pour l'époque. Hein. Même les grands entrepreneurs, négociants de l'époque font pas mieux. Hein. Et alors, il possède près de 300 000 ducats au plus fort de son ascension, plus de 14 000 ducats de rente annuelle, ce sont des sommes là encore exceptionnelles. Et il m'a donc fallu comprendre les modalités de la construction de cette fortune. Comment il a pu construire cette fortune aussi rapidement. C'était d'autant plus nécessaire que le contraste était saisissant entre la construction d'une fortune et puis la situation, le contexte. C'est-à-dire, on sait qu'on est dans une période de crise économique. Les années 1630 et 1640 sont celles que l'historien Juan Relaber décrit comme, sous l'expression de Castilla convulsa, on est en plein cœur de cette période, et c'est exactement le cœur de l'enrichissement de Rolando. Donc, apogée de la crise économique financière à ce moment-là. Je me suis intéressé à ça parce que, aussi, au point de vue historiographique, la construction des fortunes des administrateurs du roi constitue un angle mort historiographique depuis les travaux, alors très classiques, mais quand même un petit peu plus anciens, et très bons d'ailleurs, de Jeannine Fayard sur les membres du Conseil de Castille ou ceux de Jean-Marc Pellerson sur les Tratados. Le deuxième élément qui m'a poussé à travailler sur la mobilité sociale, c'était le fait que c'était vous l'avez rappelé, un cas de mobilité fulgurante. Une comète, comme l'appellent parfois les sources, hein, pour désigner ce genre de trajectoire. En 30 ans, Rolando et sa famille opèrent une véritable mutation, une mue sociale, à vitesse accélérée, et abandonnent leur identité roturière pour fonder, pas seulement une noblesse, mais une maison noble. Alors, ce qui m'a semblé frappant, c'est que la mobilité la rapidité du phénomène accentue les enjeux liés au changement de position sociale. Ça fait comme un miroir grossissant. Plus ça va vite, plus ça montre des choses que les sources n'ont pas tendance à révéler par ailleurs. De l'observation de ce parcours découle une série de questions. Comment constituer en l'espace d'une génération un lignage noble lorsque l'on appartient à la roture dans une société qui se pense comme immobile ? Comment justifier les nouvelles positions acquises face à ceux qui les contestent et qui s'estiment lésés par l'ascension ? Ces interrogations m'ont conduit à réfléchir à la fois à la perception des mutations sociales sous l'Ancien Régime, réputées, on le sait, néfastes et dangereuses. Hein. L'ordre, c'est ce qui doit rester à sa place, hein, comme dit Covarrubias. Et puis à m'intéresser aux modalités de légitimation. Comment on légitime ensuite ces nouvelles positions pour les hommes nouveaux ? Les sources que j'avais en main, notamment cette correspondance, permettaient de cerner une dimension méconnue de ce sujet, le rapport autoréflexif des acteurs à leur parcours et le décryptage qu'ils font de leur propre stratégie de justification. Alors, en l'occurrence, la correspondance m'a beaucoup aidé pour cela. Enfin, la mobilité sociale de Rolando apparaissait d'autant plus intéressante à analyser qu'elle était réversible. Ascension et déclassement. Donc à l'ascension éclair succède ce déclassement rapide et il apparaissait judicieux de mettre en relation ces deux phases, de comprendre si le déclin n'était pas la conséquence d'une élévation jugée trop véloce, excessive. En ce sens, je voulais également comprendre les raisons d'un déclassement, les échecs, selon moi, et je ne suis pas le seul, hein, ayant une vraie valeur épistémologique, aussi grande en tout cas que celle des succès, et l'historiographie ayant toujours privilégié les winners aux losers. Donc là, j'avais un cas de quelqu'un qui... Je m'arrête en 1643, c'est un cas d'école de une success story, hein, et puis ensuite un déclassement, et qu'est-ce qu'on peut en tirer de cet échec? Alors, la mobilité sociale, c'est mon deuxième point, au prisme de l'historiographie. Alors, on le sait, hein, ce n'est qu'au XIXe siècle, avec l'essor de la pensée libérale et les révolutions notamment industrielles, que les systèmes politiques valorisant les capacités de chacun, les capacités individuelles, se développent pour légitimer l'ascension sociale, l'enrichissement, la recherche du bien matériel. Auparavant, avant, alors c'est un peu schématique évidemment, mais auparavant la pensée de la mobilité se heurte aux catégories qui fondent l'intelligibilité du monde. Jusqu'à la deuxième moitié du XVIIIe siècle au moins, prédomine la vision d'un cosmos immuable, représentation, produit d'un syncrétisme entre l'héritage aristotélicien et la théologie chrétienne, qui promeut une organisation fixiste, holiste, hiérarchisée de la société. Et dans ces conditions, les changements d'état sociaux sont le plus souvent perçus comme une anomalie et comme autant de provocations à l'ordre divin. C'est ce que j'explique à mes L1. Hein. La mobilité sociale n'est pas tolérée parce que c'est Dieu qui assigne une place à chacun et comment s'en détacher. Pour autant, la valorisation de cet ordre ne signifie pas que les changements sociaux soient impossibles ou impensables. Certes, on célèbre l'immobilité. On s'efforce de contenir les dynamiques sociales trop instables en disqualifiant ceux qu'on appelle les parvenus, de manière négative. Cependant, il importe de ne pas exagérer le poids de ces représentations sociales, le poids de ces conceptions conservatrices. Dans un monde où la vie est très précaire, on le sait, les hommes sont témoins de l'extinction des dynasties, l'extinction des lignages, l'extinction des, la disparition des familles. Et cette incertitude biologique fondamentale, un trait fondamental de la société d'Ancien Régime, ces catastrophes démographiques, les décès prématurés, la disparition d'héritiers, l'extinction des lignages sont autant des freins que des leviers sociaux. À la fois des contraintes, par les contraintes que ces accidents imposent aux familles et par les opportunités également qu'elles offrent et qu'elles créent. En somme, bon, l'idée est assez simple, c'est que les pratiques sociales, en tout cas leur étude, offrent une vision moins rigide que ce que la théorie prétend. Mon travail s'inscrit dans une pensée historiographique qui défend l'ouverture des sociétés espagnoles. Et cette vision rompt avec ce que on a appelé pendant un certain temps, notamment dans les années 80-90, une Espagne qui est composée de sociétés fermées. C'était le titre d'un colloque qui avait été publié. Fermée par quoi ? Paralysée par ces logiques d'exclusion. Alors, outre les marasmes économiques qui auraient fermé, qui auraient verrouillé la société, on trouve la question de la pureté de sang et la diffusion d'une mentalité rentière à l'ensemble des Espagnols. Alors, on sait que ces thèses ont dominé les années 60-70, les expulsions des populations juives, puis morisques, à la suite de la Reconquista, auraient façonné la vision d'une société arc-boutée sur sa foi catholique, qui s'était affirmée dans sa différence face aux deux autres religions du livre. Alors, qu'est-ce qu'on faisait de la question de la pureté de sang ? Et les historiens ont longtemps associé les blocages, hein, je reprends une citation de Pierre Chaunu, blocage de la société espagnole à l'influence de ces statuts de pureté de sang. Le même historien, Pierre Chaunu, il liait le déclin de l'Espagne à ce phénomène, je cite, une société qui a refusé la mobilité et qui se condamne à l'échec. Mais le phénomène et le constat qu'il dressait s'enracinait également dans une critique de l'attitude des élites incapables de s'adapter à l'évolution du capitalisme et contaminant par leurs valeurs nobiliaires l'ensemble de la société. Chaumur reprenait ici le thème bien connu de Fernand Braudel, de la trahison de la bourgeoisie, etc. Donc évidemment, historiographie qu'il a fallu dépasser, qui a été dépassée un peu plus tard. La deuxième explication de la minoration du rôle de la mobilité sociale au cours des décennies 70-80, elle doit être recherchée dans des facteurs exogènes à cette société espagnole. Elle tient au grand paradigme scientifique qui dominait à l'époque, en Espagne comme en France. Notamment l'école des Annales, qui, en accordant la primauté au collectif sur l'individuel, a privilégié une histoire quantitative. L'histoire était elle était construite à cette époque des faits sociaux par le prisme de catégories, de classements forgés par l'historien avec le risque de réifier les groupes ainsi constitués. Et ces instruments historiographiques, le collectif par rapport aux particuliers, ces grandes parfois monographies, prosopographies, tendaient à limiter la capacité d'action des individus au simple comportement qui leur avait été a posteriori assigné. Dans ces conditions, les caractères individuels étaient arasés. On a eu la tentation, jusqu'à un moment, c'était Leroy Ladurie qui a dit ça, tentation de chasser l'individu de l'histoire et de le prendre sous une identité collective, influence à cette époque, je ne reviens pas dessus, du structuralisme et du marxisme. Alors face à ces propositions, et c'est un peu là-dedans que je me suis inscrit, les expériences menées par les représentants de la microstoria en Italie, la micro-histoire, ont montré qu'en déplaçant le regard au ras du sol, c'est l'expression de Jacques Revel, au plus proche des individus, les modalités de leur action se complexifiaient. Envisagée de la sorte, la démarche s'attache à restituer la conduite des acteurs par des changements d'échelle qui produisent des effets de connaissance, etc. La méthode permet pour moi, et elle m'a permis de rapprocher des acteurs ou des groupes en apparence déconnecté et m'a permis de délimiter des espaces de mobilité jusqu'à là oubliés. Alors dans ma thèse, et je reviens rapidement là-dessus, j'ai adopté une démarche micro-historique et pour reconstituer les stratégies de la manière la plus fine, j'ai utilisé l'ensemble d'un corpus, je ne me suis pas limité au seul comportement économique, financier, mais j'essaie de ratisser très très large chez les relations du personnage, sans sa famille, et m'intéresser à la fois à sa culture, aux aspects religieux, et mettre ça en relation pour cerner d'autres espaces et d'autres stratégies de mobilité, en empruntant notamment ce qu'on appelle une méthode auto-centrée pour cela. Alors, dans cette perspective, j'ai, pour mettre en lumière l'élasticité des rapports sociaux, j'ai mobilisé des concepts comme celui de réseau, stratégie, parenté, de maison, de clientèle, de fidélité, d'amitié. Je les ai empruntés à des travaux portant sur les élites, sur la noblesse, notamment, des officiers. Et en dépit de la diversité de ces études, en dépit de leur hétérogénéité parfois, une partie de ces ouvrages se trouvait apparentée par des interprétations historiographiques voisines. Toutes ces études partageaient en effet la conviction et l'objectif d'infléchir les thèses d'une histoire politique classique qui avait conclu à l'inévitable modernisation de l'État au cours des XVIe et XVIIe siècles. Voilà dans quel cadre historiographique je m'inscris. Voilà. Alors laissons les questions historiographiques qui sont souvent un peu plus, ennuyeuses que allons directement dans le vif du sujet parce que j'ai l'impression que là je ne fais que commencer à parler du lignage. Comment doit-on comprendre ce concept dans l'Espagne du XVIIe siècle? Alors évidemment on peut se référer au grand lexicographe à Covarrubias qui dit que le lignage. Je crois que j'avais repris la définition du dictionnaire. Le lignage, selon Covarrubias, c'est la descendance des maisons et des familles. On parle du ligne car la descendance va de père en fils, en petit-fils, en ligne droite. Alors, effectivement, définition assez classique, la descendance. Définition très voisine du Diccionario de Autoridades de 1734, la descendance de toute famille. Le lignage, la descendance de toute famille. Le lignage est donc un groupe qui descend d'une même origine et regroupe toutes les personnes qui reconnaissent descendre unilinéairement, donc qui suit une seule et même ligne d'un même ancêtre. Alors la première remarque qu'on peut tirer de ça, hein, c'est que le lignage dans les définitions de l'époque ne sont pas réservés aux familles aristocrates. On n'en parle pas ici. C'est une ligne d'ancêtre que partagent des familles nobles, non nobles, comme l'ont d'ailleurs démontré d'autres historiens comme Michel Nassier en France, un historien de la noblesse. D'ailleurs, c'est la définition qui suit hein, dans le Diccionario de Autoridades. D'ailleurs, les hommes ne sont-ils pas tous liés par un même lignage, une même ligne, en tant que descendants d'Adam? Et le dictionnaire dit « el agregado de todos los descendientes de Adán », qui forme aussi un même et seul lignage. Donc un lignage implique donc une profondeur historique, c'est les bases communes, la possession d'un passé commun et peut-être la possession de la mémoire d'une descendance. Alors cette ligne, le lignage, n'est pas seulement une ligne de succession d'ascendants, elle correspond aussi à un capital matériel et immatériel, c'est-à-dire aussi un capital symbolique. Celui-ci peut être à la fois valorisant comme dégradant. Autrement dit, on peut attacher à un lignage des qualités, mais on peut aussi attacher à un lignage des tares, des tâches, ce qu'en espagnol on appelle la macula, la macule, en particulier pour les thèmes de pureté de sang. Si l'on considère que les représentants du lignage sont dépositaires d'un capital, comme je l'entendais ici, positif ou négatif, on doit alors relever l'importance de l'opération de transmission. Transmission, c'est le cœur de l'affaire, c'est comment on transmet ce lignage. Alors reprenons la taxonomie que fait Robert Desimons. C'est une transmission familiale. Le patrimoine, alors les biens matériels, les savoir-faire. Transmission symbolique. Des objets investis d'une valeur particulière, les armoiries d'une famille ou des bijoux, par exemple, dans certaines familles, noblesse, la bourgeoisie, là, ils s'occupent des élites parisiennes, hein, qui ne sont pas forcément nobles. C'est une transmission juridique des statuts, des dignités qu'on va faire passer à travers le lignage et des transmissions religieuses, par exemple des reliques. Cette définition de la transmission d'un capital lignager rejoint la définition très classique que donne Claude Lévi-Strauss de ce qu'il appelle la maison, alors au sens anthropologique. Hein, qu'est-ce que dit l'anthropologue hein, la maison, c'est, selon Lévi-Strauss, une personne morale, détentrice d'un domaine composé à la fois de biens matériels et immatériels, qui se perpétue par la transmission de son nom, alors le nom est important, de sa fortune, de ses titres en ligne directe ou fictive, tenue pour légitime, à la seule condition que cette continuité puisse s'exprimer dans le langage de la parenté, de l'alliance, et le plus souvent dans les deux ensembles. Enfin, une dernière modalité de la transmission, non évoquée par Desimons, c'est ses qualités morales et immorales. En France, on utilise quel mot pour, au même siècle, hein, pour désigner le lignage? On emploie surtout le mot, chez la noblesse, le mot de race, hein, qu'a bien décrypté Arlette Johanna. Le sentiment d'avoir des liens avec ses ancêtres est particulièrement vif chez la noblesse. La race, au cours du XVIe siècle, finit par désigner les lignages nobles. On parle de race nobiliaire en France. On considère qu'elle s'hérite, et ça, c'est un point essentiel, hein, en vertu d'une transmission biologique des vertus et des qualités. Un régime de l'inné, d'ailleurs avec l'inné contre l'acquis, qui va mettre en opposition les letrados, la noblesse de robe en France, et puis les lignages de sang, la noblesse de sang. Donc le véhicule par lequel circulent et sont transmises ces qualités, c'est le sang. Parce que la noblesse dont le sang témoigne l'ancienneté du lignage. En Espagne, la conception, en tout cas le mot « race » est tout autre. Hein, à l'entrée « raza de Covarrubias », le lignage s'entend en mauvaise part, donc la race, comme avoir une race de morts ou de juifs. La race a ici un caractère dégradant. Hein. Le sang est porteur de l'ignominie, du caractère ignoble de l'ascendance. Donc, pureté de sang, etc. La race en Espagne, c'est d'abord la mauvaise race, le lignage qui n'est pas propre, qui n'est pas limpio. Hein. Donc, le lignage est à la fois une construction sociale, il faut un acte fondateur, des prouesses, une renommée, il faut aussi des manipulations, on va revenir, identitaires, parfois, une construction sociale temporelle, il faut du temps pour construire un lignage. De l'ancienneté, ça ne s'acquiert pas facilement, en tout cas pour un homme nouveau, et ça résulte également d'un processus naturel au caractère pensé comme biologique, des qualités congénitales dont on va hériter. En vertu de cette conception généalogique et biologique, la race sert soit à exclure hein, et discriminer les juifs, les descendants maures, les judéo-converts, soit à distinguer, soit à promouvoir. Donc on a ces deux tensions ensemble, la noblesse. Alors, comment le lignage aurait donc une croissance naturelle et les nobles auraient à préserver leur capital biologique par la conservation des vertus qui sont transmises par le sang afin de ne pas l'abâtardir. Comment? En évitant les mésalliances, premièrement, en évitant les mésalliances. Alors, mésalliances en Espagne, effectivement, avec les statuts de pureté de sang et la suspicion généralisée, mésalliances avec des familles judéo-converses en particulier, mais pas seulement. Dans son testament politique, Richelieu, pour la France, dénonce les alliances matrimoniales entre rejetons de la vraie noblesse et ceux du monde des financiers comme une dégénérescence dommageable. L'or et l'argent dont les financiers regorgent leur donnent l'alliance des meilleures maisons du royaume qui s'abâtardissent par ce moyen et ne produisent plus que des motifs aussi éloignés de la générosité de leurs ancêtres qu'ils le sont souvent de la ressemblance de leur visage. C'est-à-dire qu'on aurait aussi un abattardissement par des métiers dégradants comme la finance. Ça m'intéresse aussi parce que mon personnage est dans des milieux financiers. Alors, quelles sont les difficultés à surmonter? Deux défis de taille pour cette famille. D'abord, un défi temporel. C'est-à-dire comment... alors, on conçoit la possibilité de l'annoblissement, elle est reconnue, mais on considère que la race est imparfaite, qu'elle vient de débuter, elle vient d'être inaugurée. Donc, l'annoblisse est un homme, mais pas entièrement noble, hein, parce que il commence le lignage, il commence la race. À partir de là, il s'agit de comprendre comment Rulado et ses frères, roturiers à leur naissance, créent ce temps lignager. C'est des hommes nouveaux. C'est-à-dire créent l'ancienneté qui leur fait défaut pour afficher la puissance et le prestige d'une maison nobiliaire. Alors on va voir, il faut occulter la nouveauté. Comment on la dissimule, cette nouveauté, pour faire valoir l'ancienneté du lignage. Et dans un autre temps, il importe de voir comment cette famille parvient à naturaliser le changement de son identité au sein d'une société où tout est affaire de rythme, au sein d'une société où on fait l'éloge de la lenteur. Ce qui est lent, c'est ce qu'on ne voit pas, et les mutations sociales les plus légitimes, c'est celles qui s'opèrent sur un temps long. Là, on a affaire à quelqu'un qui, ça va trop vite, c'est excessif. Donc comment ils vont se débrouiller ensuite pour se faire accepter? Alors c'est mon dernier point, les stratégies de création et de légitimation, plusieurs facteurs qui vont permettre de légitimer cette famille et cette ascension, ce lignage. On reviendra dessus. L'argent, la discipline familiale, la cohésion familiale, des manipulations identitaires, la dissimulation, et puis comment maintenir ce lignage dans le temps. C'est un peu ce que je vais énoncer maintenant. Alors, le coût de l'entreprise, ça requiert énormément d'argent, des coûteux investissements. Seules les familles les plus fortunées, peuvent le faire. L'accession au lignage, c'est le but avoué de Rulado. Ça qui est intéressant, il le dit, il écrit à son frère, il dit « La première chose que doivent désirer dans une lettre de 1738, lettre de 1138, la première chose que doivent désirer les honnêtes hommes, c'est la consolidation de leur maison. » La consolidation de leur maison, et il explique ensuite, alors dans différentes sources, comment faire. Donc, les investissements financiers qui sont réalisés par Rulado, ils ont tous pour but, en tout cas en grande partie, la consolidation du lignage. Concrètement, comment s'enrichit Rulado? Par le contrôle d'une classe d'hommes, les banquiers portugais. La plupart judéo-converts qui se sont hissés jusqu'aux institutions financières dans les années 1600, à la fin des années 1120, 1630, et qui contrôlent de plus en plus les recettes fiscales. Donc malgré la situation de pénurie de liquidité, extrêmement difficile de recouvrer ses créances, ses salaires, ses titres de rente, les titres sur la dette consolidée qu'on appelle en Espagne les rulos, ses arriérages, lui, il arrive parfaitement en contrôlant ses hommes, en spéculant sur ses titres qui se déprécient. Alors je rentre pas dans les détails parce que c'est un peu plus loin de notre thème, hein, mais c'est grâce à ces canaux portugais, il accède à la ressource numéraire la plus prisée, l'or et l'argent, par des commissionnaires qui se trouvent à Séville. Il rachète des créances à bas prix, il se prémunit contre les retards de recouvrement, en tant que procureur des millions surtout, et en tant que procureur des finances. Donc j'ai étudié dans ma thèse tous ces réseaux. Il est capable aussi de mobiliser des gens à différents endroits où se trouvent ses intérêts. Comment se faire payer à tel endroit et à tel endroit? Grâce à ces caisses qui sont fragmentées, hein, les caisses, les trésoreries, elles sont très décentralisées, et il ordonne au trésorier de Jaén de payer sa fille pour son mariage, elle a besoin d'argent, etc. Donc il a de l'argent sur place quand il veut. Ça nécessite aussi, hein, pour créer ce lignage, une discipline familiale. Alors, stratégie familiale, c'est d'abord un lignage, c'est assurer sa descendance. L'interruption de la chaîne de transmission lignagère, elle voit le projet achoppé. À partir du moment où on n'a plus de descendants, ça devient compliqué. Alors on peut la faire passer par des parents, mais la difficulté réside dans l'insécurité biologique hein, des sociétés d'ancien régime. Alors dans cette entreprise, je vais expliquer. Hein, il est probablement il y a sa femme Isabelle de Rosco, il est aidé dans cette entreprise par sa femme hein, qui assure, comme on pourrait dire, parce que elle a alors ses enfants, il y en a qui meurent en bas âge, au moins 14 enfants naissent. Voilà, c'est effectivement, on peut 14 enfants que j'ai décomptés, donc on peut effectivement plaindre sa femme peut-être, mais c'est une bonne génitrice, on peut le dire. Brièveté de l'intervalle intergénésique hein, entre deux naissances, une naissance tous les 12 mois en moyenne. Donc, il a bénéficié de la qualité hein, de son épouse. Plus précisément, la perpétuation biologique hein, des qualités nobiliaires, la conservation du lignage, passe par la valorisation de la filiation, notamment agnatique, hein, c'est-à-dire la transmission par voie masculine par les mâles, la filiation la plus estimée dans ce cas-là. Donc le rôle de géniteur de Rolando est indissociable de ce projet d'ascension qu'il formule. Par exemple, le 27 octobre 1637, voilà, ça le remonte, il informe son frère de la disparition de son fils Rodrigo. Alors, on le voit, voilà, ici, j'ai mis LBA, on voit rien au fond, mort en bas âge. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit à son frère, il se montre extrêmement angoissé. Il dit, il ne reste plus que les trois héritiers mâles que vous connaissez. Nous n'avons plus qu'à remercier Dieu pour le supplier qu'il protège ceux qui restent. Alors ces prières ne suffisent pas à exaucer ses souhaits puisque Luis et Francisco, qu'on voit un peu plus loin, décèdent dans les années 1540, âgés d'une vingtaine d'années. La douleur est d'autant plus vive que pour Francisco, qui se trouve ici, l'héritier principal, il avait investi notamment le majorat qu'il avait créé, je reviendrai pour lui. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre, la question est là, hein, entre stratégie défensive destinée à prévenir le reflux du lignage, en favorisant les conditions de la reproduction des ascendants, et l'investissement. Alors, pour ça, je ne vais pas trop détailler, la destination des enfants, comment on fait pour protéger le patrimoine? Eh bien, on envoie les enfants au couvent, on les met dans les ordres, ça bloque le patrimoine parce que déjà, il y a pas de, ils sont célibataires par essence, donc ça évite le morcellement patrimonial. On abandonne ce qu'on appelle dans le droit successoral sa réserve héréditaire au profit du père, au profit de frères qui sont... On abandonne sa légitime aussi, la partie dont on a tous le droit en principe. Voilà, j'ai étudié ça dans une partie de ma thèse. Ça demande surtout, alors j'avais pensé à ça en préparant cet exposé, c'est-à-dire que dans le lignage, il y a des stratégies à la fois, on peut reprendre, verticales et horizontales, c'est-à-dire que comment instaurer cette profondeur historique, comment la maintenir et comment agir sur un plan horizontal. Alors là, en l'occurrence, entre frères, hein, ça peut être peut-être un outil conceptuel pour penser ces choses-là. Mobilisation d'une famille proche de frères, ils sont tous là, hein, là aussi hein, assez prolifiques. Et tous ces gens, je l'ai vu dans les archives, dans les sources, notamment notariales, collaborent. Extrême cohésion. On va avantager l'avant-dernier frère et non pas le premier, hein, comme c'est souvent le cas. On va promouvoir Rolando et on va faire en sorte que tous les héritages passent et convergent vers Rolando. Alors, transmission de légitime, les retimas, hein, transmission d'un vinculo, c'est une sorte de majorat, c'est-à-dire, je reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure, institution comme légataire universel, par exemple, le frère de Rodrigo avec qui il collabore le plus, et Octavio, n'a pas d'enfant, et c'est un ordre de son frère. C'est-à-dire que donc ça va jusqu'à un contrôle, une régulation sociale qui est extrêmement, extrêmement nette. Hein. C'est-à-dire que s'il avait des enfants, on morcellerait le patrimoine. Tout, alors bon, c'est un peu compliqué, il y a des flèches dans tous les sens, mais voilà, ce qui compte, c'est que ça revient, ça je l'ai pu l'analyser dans mes sources notariales notamment. Stratégie qui se repère dans l'intégration à la noblesse, on va ensemble intenter un procès contre les municipalités d'Andújar et de Baeza qui refusent. Hein, pourquoi? Parce qu'on les considère comme des pecheros, ils payent l'impôt, donc effectivement, on n'a pas envie que ces riches roturiers deviennent nobles et fassent défaut. Alors, Le problème majeur reste la création de l'ancienneté. Comment cette famille nouvelle crée son ancienneté? Il s'agit de prouver que on appartient à une noblesse qu'on appelle de souche immémoriale, noblesse qui ne dérive non pas des mérites, hein, comme il aurait pu le faire valoir, Rouladeau, c'est un très grand officier du roi, il aurait pu alléguer ses mérites, hein, pour dire, voilà, on conçoit, hein, que la noblesse peut venir depuis Bartol des sciences, mais ce qui l'intéresse ici, c'est la hidalguia, et comme il le dit, elle consiste dans le sang, et le droit du sang est naturel, perpétuel, immuable. Comment acquérir cette ancienneté? Par un bricolage généalogique, des manipulations généalogiques. À la faveur d'une subordination des témoins, alors là encore j'ai de la chance que je le vois, les ordres envoyés à son frère pour dire tel témoin tu vas aller le voir et tu vas faire en sorte qu'il parle dans notre sens, hein, on va acheter les témoins, là encore on a besoin d'argent, et par quelque chose qu'on voit dans les archives assez souvent, plus généralement une fiction généalogique stéréotypée. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors j'avais mis l'exemple, je ne sais pas si on a le temps, à la mort, une fiction. On trouve ça dans, c'est Enrique Soler Mesa, spécialiste de la noblesse, qui montre ça également. À la mort de l'homme riche et puissant, un ancêtre de Rouladeau, Martin Gomez Rouladeau, s'enfuit de cette ville de Baeza sans que ses parents ne sachent où il se trouvait, car les proches de la victime ne voulurent jamais lui pardonner. Et ainsi, ce Martin Gomez Rouladeau fut absent pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où il réapparut sur cette terre, à Villanueva de Andújar. Alors, qu'est-ce qui est en jeu là? C'est-à-dire que, comment va faire Rouladeau? Il va se rattacher sur la base d'une correspondance homonymique. Les Rouladeau de Villanueva sont les Rouladeau de Baeza. Et les Rouladeau de Baeza, il n'y a pas de problème, ils sont reconnus comme l'homme depuis très longtemps, puisqu'ils reconquièrent la ville des morts en 1227. Donc, comment ça se passe? Bricolage généalogique, il y a un maillon qui manque. Et là, effectivement, un flou artistique, on ne sait pas ce qu'est devenue la famille, et elle essaime dans une nouvelle ville. Impossible à vérifier. Qu'est-ce qu'il faut pour ça? Il faut l'assentiment de la famille de Baeza, qui va, la famille dont on usurpe le nom. Comment il fait? Il parvient à prouver sa noblesse de Solar, hein, c'est-à-dire la noblesse inséparable de son inscription topographique, d'où provient le lignage, et il arrive à prouver, alors grâce à l'assentiment, et là encore grâce à des rencontres avec cette famille de Baeza, qu'il provient de cette famille. Il le dit, plus ces maisons souches, hein, casas solares sont anciennes, plus elles sont nobles. Donc il y a vraiment un facteur, une ancienneté, plus on est ancien, plus on est noble. Et celle des Rouladeau de Baeza, alors voilà, il va jusqu'au bout, hein, du processus. Elle aurait été fondée, donc c'est un homme nouveau, hein, mais il le dit dans sa défense, elle aurait été fondée au 8e siècle, à l'époque de l'infant Don Pelayo, Pelage, hein, premier roi des Asturies, donc il descendrait d'ici, et prince guerrier, instigateur de la reconquête. Le temps historique ici se confond avec un temps mythique, au caractère insondable, impossible de vérifier, mais tant mieux, parce que c'est parce que c'est impossible à vérifier que ça prouve la profondeur et l'obscurité du lignage, en fait, prouve sa valeur. Cette fiction, permet d'inscrire la famille dans une tradition chevaleresque, militaire, etc. Ça pose problème, parce qu'évidemment, les gens sont pas dupes. Comment ils réagissent? Il y a une partie sur la base locale, des gens qui savent très bien que les grands-parents payaient l'impôt et qui acceptent pas du tout ça. Comment légitimer? Est-ce que les habitants y ont vraiment cru? Alors, les habitants sont divisés pendant le procès. Il y en a certains qui appartiennent à la faction de Rouladeau, mais une grande partie ne reconnaissent pas. Alors, ça c'est un peu plus compliqué, je vais résumer très rapidement. D'une part, il s'en sort bien parce que au même moment, à Andújar, la ville est divisée entre deux factions, deux clans rivaux, et lui se met au service d'un des clans qui va favoriser l'acceptation de sa noblesse. Donc, c'est une première chose. Deuxième chose, on voit les difficultés qu'il a parce que, malgré sa richesse, hein, personne n'accepte sur place, à Jaén, à Andújar, dans cette région, de marier ses filles ou ses enfants aux filles ou aux fils de Rouladeau. C'est-à-dire qu'il se heurte à un refus. Personne ne veut. Tout le monde a l'image d'un homme nouveau et personne ne veut abattardir sa noblesse. Il le fait juste après avoir reçu son titre de noblesse en 1637, mais de 1637 à 1639, ses efforts sont vains. Et au début de l'année 1638, il a 54 ans et il se montre désespéré. Alors comment il fait? Conséquence, mobilité géographique, le tropisme andalou est délaissé et on va chercher des alliances hors Andalousie, où la famille est inconnue et où on peut d'autant mieux inventer son passé qu'elle n'est pas connue. Il réussit, grâce à son argent, à s'affilier avec un héritier d'une branche secondaire des Mendoza, donc là, énorme famille, hein, avec le patronage de Medina Celi. Donc là, il réussit à agréger les principaux attributs symboliques. Un des gros aspects de ma thèse, c'est comment on parvient à légitimer, c'est grâce à des stratégies de dissimulation. art de la feinte, et j'ai démontré ça dans un article, occurrence dans sa correspondance du secret, de la dissimulation, on trouve une quarantaine de termes relatifs à la parole maîtrisée. Et j'ai essayé de montrer qu'il y avait vraiment une réintégration de ce que le jésuite José López et Charles Boulou et les miroirs des princes exaltent, c'est-à-dire la réserve, la dissimulation. Tout ce vocabulaire, finalement, repasse dans une correspondance privée. On trouve les expressions conseil à Euphrasio, conseil à ce frère. Le soin que vous portez à cette affaire doit permettre d'agir et vous inciter à ne parler qu'au moment venu. Alors, Antonio de Guevara est pas très loin. Qui prétend que la gloire implique d'être très porté vers l'accent tout en parlant modérément. C'est des conseils qu'il réinvestit hein, dans sa correspondance. Enfin, ça passe par la captation d'objets symboliques, c'est-à-dire seigneuriaux et lignagers. On achète les alcabalas, les moulins, les terres, volonté d'accueillir une seigneurie, les blasons, les armoiries qu'on va récupérer des roulados de Baeza. Attribut symbolique majeur, la chapelle. En 1641, il construit une très belle chapelle dans laquelle il dépense énormément d'argent, plus de 10 000 décas à Madrid, dans un couvent qui occupait la place actuelle de la Bibliothèque nationale d'Espagne. Hein. Vous vous souvenez, couvent des Augustins Récollets Deschaux. C'était un endroit où il a été enterré, hein, cet homme-là. Et la dernière chose, et je finis là-dessus, c'est se maintenir. Comment on se maintient et comment on maintient le lignage? Alors, par l'utilisation des instruments juridiques à disposition, hein, mayorazgo, vinculos, chapelni, fixer l'ordre successoral, et etc. Alors, juste pour terminer, qu'advient-il de cette famille? Alors, énorme transformation, c'est-à-dire au moment où il est condamné en 1649, déclassement brutal de la famille, fin du lignage agnatique parce que le fils aîné meurt, il ne reste plus qu'un seul fils, et le procureur Rodrigo préfère avantager ses trois dernières filles, les plus jeunes, ce qui n'arrive quasiment jamais, parce qu'elles sont en situation de telle détresse économique qu'il faut leur passer le majorat pour qu'elles puissent survivre. Donc là, tout est chamboulé. Ironie du sort, les personnages, les Portugais grâce auxquels il avait construit sa fortune, profitent de son déclassement. Un Portugais réussit à marier deux de ses fils à deux filles de Rulado. Donc, lui qui voulait se détacher de cette caste, en fait ils sont Portugais, mais là aussi ils cachent un peu leur jeu, ils prétendent être nobles. Donc c'est donc à la faveur des déconvenues financières que cette famille parvient à capter le patrimoine. En somme, ce que je montre à la fin, c'est que bien que la renommée de la maison soit ternie et son capital amputé, les enfants du procureur n'abandonnent que temporairement le train de vie nobiliaire auquel ils avaient été habitués. En fait, il y a une stabilisation assez rapide. Et quelque chose se transmet et quelque chose perdure. Alors, qui est lié à la fois, je ne rentre pas dans les détails, à la cohésion des frères au moment de ces bouleversements, à la création de lignages secondaires. Il avait assuré sa descendance à travers des mariages et à travers la passation du majorat à ces lignages secondaires. Pour terminer, au XVIIIe siècle, le majorat est devenu surtout un instrument référentiel, c'est-à-dire qu'il n'y a plus grand-chose, simplement la chapelle en question, destinée à valoriser une mémoire lignagère et à exprimer la continuité d'un système de parenté au moyen de ces objets qui sont fétichisés, le blason, la chapelle, le nom. Tant que les bénéficiaires du majorat ont intercalé le nom des Rulado entre les nombreux patronymes, alors on trouve ensuite les Rulado intercalés dans des lignages secondaires, hein, mais tant qu'on voyait encore le patronyme, tant qu'ils ont conservé et entretenu la chapelle de Madrid, l'identification de la maison et à son fondateur a été réaffirmée. Le lien avec le passé s'est certes distendu avec le temps, mais il n'a pas été totalement rompu, et une partie de la puissance symbolique du lignage a subsisté. Voilà, on voit ça au XVIIIe siècle.
Merci beaucoup.